Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffuserons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre édition du programme en français sur SBS Audio. Au sommaire de cette édition, une rencontre avec Eric Varjolu en direct du Paris-Dakar. Avec lui, nous replongeons dans l'histoire de ce rallye hors norme. Nous découvrirons également la programmation de l'Alliance française de Canberra pour le mois prochain. Enfin, comme chaque jeudi, nous jetterons un coup de projecteur sur l'économie australienne. Et aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Bertrand Tungandami. Au sommaire de ce journal, près d'une douzaine d'engins explosifs ont été découverts sur des trottoirs dans le territoire de la capitale australienne. En France, échec d'une motion de censure contre le gouvernement et des soldats français en route pour un exercice militaire européen au Groenland. Et les États-Unis s'apprêtent à suspendre les demandes de visa d'immigration pour 75 pays. Onze engins explosifs ont été découverts dans les rues de Canberra ces dernières 48 heures. L'inspectrice Anna Wonski de la police du territoire de la capitale australienne, Les City, a déclaré que ces bombes artisanales avaient été trouvées sur des trottoirs du quartier de Belconnen, notamment près du lac Ginninderra.
Police have been contacted by several members of the public who have located them, and police have located further devices through searching the area.
L'inspectrice précise qu'il n'existe aucune indication suggérant la présence d'engins similaires dans d'autres quartiers de Canberra. Elle rappelle toutefois au public à rester vigilant pendant que les investigations se poursuivent. Et les représentants des groupes religieux appellent à reporter le vote sur les réformes relatives au discours de haine, estimant que le calendrier actuel ne permet pas un examen approfondi. Le projet de loi doit être débattu lundi prochain lorsque le Parlement reprendra ses travaux plus tôt que prévu. Le texte prévoit notamment une défense pour les personnes citant directement un texte religieux ainsi qu'un test basé sur des principes pour qualifier les comportements incitant à la haine raciale. L'évêque anglican Mike Osteed déclare que cette réforme crée un véritable champ de mine en matière de définition du terme « haine », tandis que le président du Conseil national des imams australiens, le cheikh Shadi Al-Sulayman, affirme que le projet pourrait exposer des discours autrefois légaux à des nouvelles sanctions. Cependant, le ministre de l'Intérieur, Tony Burke, a déclaré à Channel 7 qu'il estime que le gouvernement a trouvé le juste équilibre.
These arguments have been put in front of the Intelligence Committee over the last couple of days. The Intelligence Committee is a serious committee. They'll work through the detail and provide a report, I expect, by the end of the week. And so the government will have a look at that. But the exemption is there simply to make sure that we've got freedom of religion in Australia, just to make sure that people who are not involved in hate don't inadvertently get caught up.
Pour faire adopter les réformes relatives au discours de la haine, le gouvernement travailliste aura besoin du soutien soit des Verts, soit de la coalition. La chef de l'opposition libérale, Susan Ley, indique que son parti a de sérieuses réserves quant au projet de loi dans sa forme actuelle et préférait qu'une définition de l'antisémitisme soit inscrite dans le texte de loi.
The legislation does not address the real issues that gave rise to the Bondi attack. It doesn't address Islamic extremism. It doesn't address ISIS influence. And it doesn't address the rise of anti-Semitism and the associated terrorist threat in Australia. Laws of this seriousness demand precision, confidence, and clarity. What we have instead is confusion and contradiction.
Et les États-Unis ont placé leur personnel au Moyen-Orient en état d'alerte maximale alors que des spéculations s'intensifient sur une possible offensive militaire ordonnée par Donald Trump contre l'Iran. L'ambassade américaine en Arabie Saoudite a appelé son personnel à la plus grande prudence et à éviter les installations militaires. Parallèlement, selon certaines informations, une partie du personnel aurait reçu l'ordre de quitter la base américaine d'Al Udeid au Qatar. Cette base aérienne avait été frappée par l'Iran en juin dernier, lors de la guerre de 12 jours contre Israël, entre Israël et l'Iran, au cours de laquelle les États-Unis avaient bombardé des sites nucléaires iraniens. Le président américain a déclaré à la chaîne CBS que les États-Unis interviendraient de nouveau si l'Iran commençait à exécuter des manifestants.
I haven't heard about the hanging. If they hang them, you're going to see some things that I don't know what where you come from and what your thought process is, but you'll perhaps be very happy.
What do you mean by that?
We will take very strong action. If they do such a thing, we will take very strong action.
En France, l'Assemblée nationale a rejeté hier des motions de censure déposées par la France insoumise et le Rassemblement national contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, ce pour protester contre la signature samedi dernier du traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur. Et à l'issue du Conseil des ministres hier, Emmanuel Macron a annoncé le déploiement des soldats français au Groenland dès ce jeudi 15 janvier pour participer à un exercice militaire européen dans ce territoire convoité par l'administration Trump. Explication Valérie Gaz pour RFI.
C'est l'un des principaux messages qu'Emmanuel Macron a voulu faire passer à l'issue du Conseil des ministres. Sa préoccupation face aux ambitions américaines sur le Groenland. Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement, a pris soin de préciser qu'elle reprenait exactement les mots prononcés par le chef de l'État.
Nous ne sous-estimons pas les déclarations sur le Groenland. Si la souveraineté d'un pays européen et allié était touchée, les conséquences en cascade seraient inédites. Et la France suit la situation avec la plus grande attention et inscrira son action en pleine solidarité avec le Danemark et sa souveraineté.
Quelques heures auparavant, c'est le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qui était monté au créneau pour annoncer l'ouverture d'un consulat français au Groenland le 6 février prochain. Le Premier ministre a ensuite pris le relais lors des questions au gouvernement. À l'Assemblée, Sébastien Lecornu a exprimé la préoccupation de Paris.
Les intentions de l'administration Trump sont sérieuses. Nous ne devons absolument pas sous-estimer la parole du président américain.
Le chantage américain sur le Groenland met en jeu la souveraineté des pays européens. C'est un test face auquel Emmanuel Macron, qui s'était rendu au Groenland en juin en signe de solidarité, tente de répondre en affichant la détermination de la France à renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe.
Et les États-Unis ont suspendu le traitement des demandes de visa d'immigrants en provenance de 75 pays. Le département d'État, dirigé par Marco Rubio, indique que les agents consulaires ont reçu pour instruction de bloquer les demandes de cartes vertes et de résidences permanentes en provenance de ces pays à compter du 21 janvier prochain. Le secrétaire d'État affirme que cette mesure est prise afin de lutter contre ce qu'il qualifie d'abus du système d'aide publique par les immigrants, et ce, malgré les conclusions de l'Institut de politique migratoire Migration Policy Institute, selon lesquelles les non-citoyens doivent déjà attendre des années et faire face à d'importantes restrictions d'éligibilité pour Medicaid, des bons alimentaires, food stamps et les aides en espèces. Monsieur Rubio précise que cette mesure s'inscrit dans la continuité des interdictions d'immigrants et d'immigration de voyage précédemment mises en place.
This is not a punitive thing we're going out to try to make examples of it. Our visa system, okay, who you allow to visit your country should reflect the national interest. We said that from the very beginning. It was one of the directives that we got from the president. It's one of the things he ran on.
Et retour en Australie, où les pompiers réclament une enquête sur la crise des incendies qui sévit actuellement dans l'état de Victoria. Les pompiers affirment que les volontaires alertent depuis longtemps sur les dégâts causés par le sous-investissement. Une coalition des pompiers volontaires et professionnels a exigé cette enquête après s'être rassemblée sur les marches du Parlement du Victoria. Plus de 410 000 hectares ont brûlé dans l'État, détruisant 770 bâtiments, dont 228 maisons. Ces dégâts sont comparables à ceux des incendies du samedi noir de 2009 qui avaient fait 173 victimes. Le président du CFA Volunteers Group, John Houston, déclare que les pompiers sur le terrain se plaignent depuis longtemps du manque de matériel sûr, d'équipement et de ressources de base, ce qui rend l'ampleur de la crise actuelle totalement évitable. Et un coup d'œil météo à travers les principales villes du pays ce jeudi 15 janvier. Perth, temps ensoleillé, 36 degrés. Adélaïde, éclaircie, 25 degrés. Melbourne, on signale quelques averses et risques d'orage avec un maximum de 24 degrés. Hobart, une ou deux averses et 19 degrés. Canberra, averses et orages en cours de journée avec un maximum de 28 degrés. Mais on signale des averses également et des orages en cours de journée pour Wollongong avec un maximum de 25 degrés, tandis qu'à Sydney, il y a aussi des risques d'averses et risques d'orages avec un maximum de 28 degrés. Newcastle, des conditions similaires. Brisbane, on signale des éclaircies avec un maximum de 31 degrés. Éclaircies également pour Cairns avec un maximum de 34 degrés. Et Darwin, aussi des éclaircies avec un maximum de 33 degrés. Fin de cette édition. Après une courte pause, on retrouve Jean-Noël Ducasse pour l'actualité sportive de ce jeudi 15 janvier.
Le journal des sports de ce jeudi, et comme d'habitude, on commence avec le côté moto du Dakar, car l'Australien Daniel Sanders est le tenant du titre, et hier, malheureusement, il a chuté, et il a juré de poursuivre la course malgré sa fracture de la clavicule et du sternum suite à une chute pendant la 10e étape. Le pilote de 31 ans comptait plus de 6 minutes d'avance au classement général lorsqu'il a chuté d'une immense dune au 138e kilomètre dans la seconde moitié de l'étape marathon reliant Wadi Ad-Dawasiya à Bicha. Le champion en titre du Dakar et du monde des rallyes raids affirme qu'il serait absurde d'abandonner maintenant alors qu'il reste 3 jours de la course.
Yeah, you'll see me on the start line for sure. I finished the stage off in the sand dune, so we've got no sand really for the rest of the race. So happy about that. Otherwise, it would be I'd be second guessing of what we do.
Daniel Sanders est quatrième au classement général après cet accident. Côté auto, eh bien après la 10e étape, le Qatarien Nasser Al-Attiyah reste leader au classement général. Sébastien Loeb, le français, remonte à la 4e place du général. On passe au foot avec un retour sur les matchs des demi-finales d'hier de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc. Le Sénégal a battu l'Égypte 1-0, but de Sadio Mané. Reportage Thomas de Saint-Léger pour RFI.
Une inspiration, une frappe soudaine, le gardien égyptien El Shenawy mystifié. En un geste, Sadio Mané a encore libéré tout un stade acquis à la cause sénégalaise.
Sadio Mané, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, donc on n'a rien à dire, bravo.
Chapeau, on ne lui doit plus rien. Actuellement, il ne doit plus rien, autant pour moi. Il a tout fait pour le pays, donc tout ce qu'il rajoute sera qu'un bonus. Merci Sadio, merci le Sénégal.
À 33 ans, Sadio Mané reste le facteur X de son équipe, un modèle pour ceux qui jouent à ses côtés, le latéral Crépin Diatta.
Qu'est-ce que je peux dire sur Sadio? C'est une légende vivante. Ce joueur, quand tu le vois, tu sais que voilà, il veut quelque chose. Il a toujours tout donné pour le Sénégal. C'est pas seulement aujourd'hui. Il faut le féliciter, le célébrer parce que il est unique.
Son 52e but sous le maillot des Lions, peut-être l'un des plus importants de sa carrière, permet aussi à Sadio Mané d'entrer dans le top 5 des meilleurs scoreurs de l'histoire de la CAN, égalité par exemple avec Didier Drogba. Mais pour l'ancien joueur de Liverpool, l'essentiel est ailleurs.
Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné cette opportunité de rentrer parmi ces grands joueurs. Après, je suis un soldat de la nation. Ce n'est pas ça le plus important pour moi. Le plus important, c'est de pouvoir jouer une finale d'une CAN avec les Lions. Donc, j'espère amener ça à Dakar.
Une finale pour une sortie de rêve, Sadio Mané l'a annoncé au micro. Il jouera dimanche à Rabat, son dernier match de Coupe d'Afrique.
Et au Dakar, c'est la fête et Léa Lisa Vesterov a recueilli ses réactions pour RFI.
On est parti à la finale, c'est la fierté nationale. Et même on peut dire internationale quand même. Finale!
On est très content, on est très très content, vraiment. Vraiment, on n'a même pas les mots. Émotion totale, ouais, c'est le maximum.
Quand on a dit que pendant la première mi-temps, le Sénégal n'avait pas du tout marqué, j'étais tellement stressée qu'on soit éliminé. Mais quand même, c'est la victoire qu'on a remportée.
Victoire méritée?
Oui, très méritée même. Surtout Sadio Mané. Mais merci à lui. Merci.
Sadio Mané, toujours, toujours présent dans les bons moments. Il ne nous a jamais laissé tomber. Là, maintenant, il reste la finale. On va assurer et gagner le trophée. Le ramener au pays, Inch'Allah.
Super, mais ça a été très stressant. Parce que l'Égypte est une équipe très joueuse, très tactique. Et à tout moment, on s'attendait à ce que le Sénégal tombe dans un piège. Mais heureusement, les joueurs ont fait preuve de beaucoup de motivation. Et je pense que finalement, ça s'est joué au mental.
En tout cas, je suis contente. C'est mérité. Cette victoire est vraiment méritée. Maintenant, jusqu'à la finale, on va continuer comme ça. On va gagner.
Waouh, on est fiers d'être Sénégalais. Sénégalais, rect, Sénégalais, rect.
Et dans l'autre demi-finale, le Maroc s'est imposé contre le Nigeria au tir au but. Pauline Guillou, RFI.
Les Marocains qui se sont imposés face au Nigeria, 120 minutes, 0-0 et finalement une séance de tir au but pour que le Maroc rejoigne la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, de sa Coupe d'Afrique des Nations, hein, des Lions de l'Atlas qui sont maintenant à une marche de leur rêve, hein, eux qui courent après le trophée continental depuis 1976, hein, rendez-vous compte, du côté des Nigérians, que c'est difficile, hein, ce soir, les malheureux finaliste de la CAN 2023 qui s'arrête ici en demi-finale, qui était en quête d'un quatrième sacre, pardon, la meilleure attaque de ce tournoi avec 14 buts, qui joueront donc la petite finale face à l'Égypte et du côté des Marocains, eux, la très grande finale face au Sénégal. Ce sera dimanche soir à 19h en temps universel.
On passe en Europe avec l'écrasante victoire de Marseille en Coupe de France l'autre jour, 9-0 contre Bayeux. Christophe Direnzian, RFI.
OM dernier qualifié et le plus facilement et de loin face aux amateurs de Bayeux, pensionnaire de 6e division, pas de sentiment, pas de quartier. Un carton 9-0 face aux pauvres Normands à l'issue de ce match délocalisé à Caen. C'est rude, admet le capitaine bayeuxin Grégoire Delain, mais ça ne gâchera pas la fête.
Il n'y a pas eu photo sur le score, il y a un manque d'écart, ça c'est sûr, on l'a senti sur le terrain. Ouais, beaucoup de respect même sur le terrain, ils ont été très respectueux avec nous, franchement... Très, très, très bien de leur part et bah, félicitations eux quand même. Ouais, c'est inoubliable ce qu'on a vécu là avec 20 000 spectateurs à Dornano, l'ambiance et tout. Ils nous ont pas lâché du début jusqu'à même 90e où on peut potentiellement marquer. Ils étaient à fond et ça fait trop plaisir. C'est de grandes émotions.
Grégoire Delain sur beIN Sport. En 8e de finale, Marseille recevra Rennes. Parmi les autres matchs tirés au sort, le Paris FC, tombeur du tenant du titre, le PSG, ira à Lorient. Lens ira à 3 clubs de Ligue 2. Monaco se déplacera à Strasbourg et Lyon accueillera Laval, autre formation de Ligue 2.
Chez les dames, la première ligue féminine en France, le Paris Saint-Germain s'est imposé contre Dijon 4-0. Marseille a été battu par Saint-Étienne 1-0. Le Havre et Fleury, match nul. Un but partout. Lyon a battu Lens 1-0. Strasbourg s'est imposé contre Montpellier 2-1. Et Nantes a battu le Paris FC 2-1. Chez les messieurs en Angleterre, en Ligue Cup, Arsenal a battu Chelsea hier soir 3-2. Mardi, Manchester City s'est imposé contre Newcastle 2-0. Christophe Direnzian, RFI.
Victoire 2-0 des Citizens à Newcastle à l'issue de la première demi-finale aller. La seconde, c'est un derby londonien, Chelsea-Arsenal. Le premier du genre pour le nouvel entraîneur des Blues, Liam Rosenior, admiratif de son homologue Mikel Arteta, actuel leader de la Premier League avec les Gunners.
Mikel est quelqu'un...
Mikel Arteta fait un travail incroyable. Il a eu le temps de construire l'équipe qu'il souhaitait. Elle est très bien organisée dans tous les aspects du jeu. Et comme je l'ai déjà dit, tout le monde doit commencer quelque part. Et moi, j'ai vraiment hâte d'être à ce match. On a un parcours très différent, Mikel et moi, et chacun a sa propre façon d'arriver à ses fins. Je respecte tout le monde dans ce milieu, car c'est un milieu difficile. En tant qu'entraîneur, on est jugé constamment, sur chaque mot, chaque action, chaque match.
On passe en Espagne avec la Coupe du Roi, les huitièmes de finale. Le Real de Madrid battu 3-2 par Alba Chete, club de deuxième division. Le Betis Séville a gagné contre Elche 2-1 et Alaves s'est imposé contre le Rayo Vallecano 2-0. En Italie, l'Inter Milan, premier au classement, a battu Lecce 1-0. Naples, troisième, a fait match nul avec Parme 0-0. En Allemagne, le Bayern Munich, premier au classement général, a battu le FC Cologne 3-1. La joueuse de cricket australienne Alyssa Healy a annoncé sa retraite de la compétition. La prochaine série de matchs contre l'Inde en mars sera sa dernière. Elle a joué pour l'Australie depuis une quinzaine d'années. Le capitaine de l'équipe nationale féminine depuis 2023 a confirmé la nouvelle dans le podcast Willow Talk qu'elle co-anime avec Adam Peacock et l'ancien wicketkeeper de l'équipe masculine australienne Brad Haddon.
Been doing it a long period of time. I've loved every minute of it, but I felt like every contest I wanted to be a part of and I wanted to compete, and it's probably drained me a little bit more over the years. I guess the opportunity to finish at home was something that I really wanted to do, and to be completely honest, if had fought my way through to the World Cup, that's probably not doing the right thing by my teammates and probably the country as well.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Vous écoutez Radio SBS et on continue l'émission dans quelques instants. Restez avec nous.
Je sais qu'un jour il va marcher. Il aura besoin de place pour tomber. Tu crois qu'on a trouvé une bonne raison pour casser le mur du salon.
Et c'était le mur du salon, une chanson de Steve Ibrahim. Place actuellement, donc tout de suite à l'actualité économique. On va voir comment l'Australie muscle sa réserve stratégique concernant les minéraux critiques face aux enjeux mondiaux.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Alors que la population mondiale dépend de plus en plus des minéraux critiques pour fabriquer tout type de technologies, allant des smartphones aux pièces automobiles, en passant par l'armement, ces ressources sont devenues un enjeu de sécurité nationale. Le gouvernement australien vient d'annoncer qu'il donnera la priorité à plusieurs minéraux clés au sein de sa réserve stratégique de 1,2 milliard de dollars. Les minéraux critiques sont, comme leur nom l'indique, de plus en plus vitaux dans le monde moderne. Ils sont le moteur des technologies utilisées par des milliards de personnes, telles que les téléphones portables et les ordinateurs. En 2026, ils représentent à la fois un levier économique et une arme à part entière. Selon la ministre fédérale des ressources, Madeleine King, la constitution d'une réserve stratégique de ces ressources est désormais une question de sécurité nationale.
And especially in terms of antimony and gallium and rare earth elements are very important within the AUKUS context as well. So making sure those products are available for the builds our three nations of AUKUS are doing in the submarines is also going to be important.
Le gallium, l'antimoine et les terres rares ont été classés comme ressources prioritaires pour la réserve australienne. L'antimoine possède des multiples usages. Il sert notamment à durcir les balles et entre dans la composition des systèmes de guidage des missiles et des lunettes de vision nocturne. Ainsi, le gallium est crucial pour l'équipement militaire, surtout pour les systèmes radars de pointe. Cette réserve permet également au gouvernement fédéral d'acheter des minéraux provenant des mines australiennes pour les revendre à d'autres pays. En octobre 2025, le Premier ministre Anthony Albanese a signé un accord cadre sur les minéraux critiques avec l'administration Trump aux États-Unis.
Well, this is an $8.5 billion pipeline that we have ready to go.
That's right. So all ready to go.
Ce partenariat vise à garantir un approvisionnement régulier des États-Unis en minéraux. L'année dernière, le président Donald Trump faisait cette prédiction.
A year from now, we'll have so much critical mineral and rare earths that you won't know what to do with them. They'll be worth about $2.
L'échéance n'est pas encore atteinte, mais depuis Air Force One, lundi 12 janvier, il révélait où certains de ces minéraux seraient utilisés.
I'm going to be making a trip to Detroit to talk about our unbelievable amount of factories that are opening up all over the country, many of which are car factories and car plants.
Au total, le gouvernement albanaisé engage environ 28 milliards de dollars pour soutenir ce secteur. Cependant, la ministre de l'Opposition pour les ressources, Susan MacDonald, craint que la politique intérieure ne freine les ambitions internationales de l'Australie.
We've been warning for years that Labor needs to be ensuring the supply of these critical minerals, and that means ensuring mining. That means not introducing more legislation like the EPBC. It means reducing the costs of processing. And, you know, if we just talk about gallium for a second, I mean, that is a byproduct of bauxite mining, and yet our bauxite processing is on its knees.
Actuellement, la majeure partie des minéraux critiques australiens est transformée en Chine, qui contrôlait près de 90% de la chaîne d'approvisionnement mondiale l'année dernière. Cette dépendance est partagée par les autres économies avancées, dont les ministres des Finances du G7 sont réunis à Washington pour discuter de la question. Le trésorier fédéral, Jim Chalmers, y sera présent pour promouvoir la place de l'Australie dans la chaîne d'approvisionnement et son potentiel pour briser le monopole chinois. Selon la ministre des Ressources, cela confirme le statut de l'Australie sur la scène mondiale.
And what this says is that whilst Australia is not a member of the G7 because of our extraordinary resources sector and our natural advantages in resources and critical minerals, we are welcome at these forums as a leader on rare earths and critical minerals globally.
Signe de l'urgence, le Japon a déjà envoyé un navire en mission de prospection des terres rares dans sa zone économique exclusive dans l'océan Pacifique et vise à réduire davantage sa dépendance vis-à-vis de la Chine pour la transformation de ses ressources. Ce reportage a été produit par Camille Bianchi pour SBS News et traduit en français par Bertrand Tungandamé pour SBS French.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
C'était morceau de et ce morceau est tiré du premier album de l'artiste. À présent, on retrouve Christophe Mallet en conversation avec Eric Vardiolu au Paris-Dakar. Il nous replonge dans l'histoire d'un rallye hors normes entre débrouille des débuts, évolution technologique et transmission aux nouvelles générations. C'est depuis les tout premiers Dakar, il y a plus de 40 ans. À tout de suite.
Eh bien, on est avec Eric Vardiolu. On s'était déjà parlé, Eric, l'année dernière. Je ne pensais pas vous revoir cette année sur un Dakar. Alors, même si vous ne le faites pas officiellement, vous êtes quand même là sur un 48e Dakar officiellement.
Oui, enfin, je suis là, je suis juste témoin. Je n'ai même pas apporté un appareil photo. J'ai des gens qui m'ont succédé, que je connais bien. Je ne vais pas dire que je les ai formés, mais ils ont été à côté de moi pendant des années. Ils sont prêts à prendre la relève. Moi, j'en ai fait, 48. J'ai fait les Abidjanis, j'ai fait aussi beaucoup d'autres choses. J'ai 75 ans, hein, donc à un moment, faut laisser la place.
Vous les faites pas, hein?
Oui, c'est gentil. Mais, à un moment, j'avais pas vraiment envie, mais je sentais qu'il fallait que j'arrête et puis qu'il fallait que ça continue. Il faut du sang nouveau quand même. C'est vrai qu'ils maîtrisent certains aspects techniques mieux que moi. Ça plus le reste, et ils ont été formés sur le terrain et ils seront très bien. J'ai vu leur travail, il n'y a rien à dire.
Alors, pour résumer une vie en quelques minutes, mais votre travail au Dakar, il a largement évolué au gré des années. Vous avez évolué avec cette épreuve. Parlez-nous un petit peu de tout ce que vous avez pu faire sur le Dakar, et on n'a que quelques minutes.
Hein. Oui. Non, j'ai tout fait. J'étais dès le début. J'ai travaillé avec les outils qu'on avait à l'époque, et qui étaient des boîtiers argentiques avec des films 36 vues qu'on changeait dès qu'ils étaient finis. C'était d'ailleurs un des problèmes. On faisait du noir et blanc et de la couleur. Il fallait absolument pouvoir rapatrier les films. Et souvent, c'était à l'occasion d'évacuations sanitaires. Donc, c'était étrange. On jetait le sac de photos sur, quasiment sur le ventre du mec qui était sur la civière, tu vois. Mais bon, c'était comme ça. Et on est arrivé à envoyer deux fois, deux envois à Paris, au bureau. Ils attendaient tous les pellicules. Ce qu'on redoutait, c'était qu'il y ait eu un problème technique sur les boîtiers, parce que aujourd'hui, on est dans un confort absolu de travail. On est en live, on regarde ce qu'on fait, ça va, on passe à autre chose, ça va pas, on recommence. Avant, on se ceinture, bretelle et tout, on faisait 10 fois le même truc en espérant qu'elle soit réussie. Il n'y avait pas les mises au point automatiques, il n'y avait rien de cette technologie, et on ne voyait pas ce qu'on avait fait. On travaillait en aveugle. Aujourd'hui, on travaille en live, et c'est un confort de travail qui, en même temps, participe à ce qu'on soit plus créatif, parce qu'on va oser des choses qu'on n'aurait jamais osé, tu vois, des effets de lumière, des téléobjectifs, des trucs. Donc on a énormément progressé, et moi je trouve que c'est formidable qu'on profite de ça. Mais qu'est-ce qui était comme il y a 50 ans? Il n'y a plus rien qui était comme il y a 50 ans.
Absolument, c'est clair. Aujourd'hui c'est une date un peu spécifique, c'est les 40 ans du décès, de l'accident d'hélicoptère qui a pris la vie de 5 personnes, notamment Thierry Sabine et Daniel Balavoine. C'est les deux noms dont on se rappelle. Vous y étiez. Est-ce que je peux me permettre de vous demander comment vous avez vécu ça, ce moment, et surtout cette journée d'après, la continuité de ce Dakar après?
Alors, moi précis, oui, je m'en souviens. Enfin, j'étais dans la spéciale. J'étais parti le matin ou la nuit, je me souviens plus, comme on fait toujours. C'est-à-dire qu'on partait sur la piste avant tous les concurrents, puisque quand ils allaient être eux sur la piste, il fallait qu'on soit en place. Comme ils roulaient beaucoup plus vite, il fallait qu'on soit en place pour prendre les photos. Et en fait, j'étais précisément au Mali, dans les falaises de Bandiagara, qui est un endroit assez typique, où on attendait que les procureurs viennent. Puis à l'époque, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de téléphone, on n'avait rien, on était isolés, hein, complètement. Et donc on est là, on sait à peu près quelle heure les voitures vont passer, rien, il se passe rien, moto, tout ça, rien. Là, on commence à se poser des questions, et au bout d'un moment, il y a une voiture médicale qui passe, qui s'arrête et qui nous dit il y a eu un accident, le rallye est arrêté. Et alors je ne saurais pas te dire s'ils nous disent il y a un accident de moto, d'hélicoptère, pardon, et Thierry est mort. Je vais voir, mais gros accident. De toute façon, il y avait un mot de code qui existait, c'était le pire est arrivé. Quand cette phrase elle serait prononcée, on savait que c'était vraisemblablement un accident mortel qui aurait touché la direction de course, en l'occurrence Thierry Sabine. Donc, alors au fur et à mesure, alors donc on fait demi-tour, on rentre, le rallye est suspendu, et on repart en continuant, en se posant des questions. Thierry Pula, bon, c'est terrible, on connaît pas tous les détails, tu vois. Et évidemment, qu'est-ce qu'on va faire demain? On ne sait pas. On n'était pas dans les secrets de l'organisation. Donc on rejoint le bivouac et suivant. Et là, on apprend que non, le rallye va continuer. C'était Patrick Verdois à l'époque, qui était le numéro 2 de Thierry Sabine, qui connaissait et était préparé à reprendre. Alors, reprendre, c'est préparer, c'est facile. Est-ce qu'il va être capable de le faire? Parce que c'est pas évident. Et donc, alors, te dire si on est reparti le lendemain ou s'il y a eu une journée de césure, je me souviens pas. Mais le rallye est parti et a continué, et c'était comme ça, c'était prévu, et c'était prudent que ça soit prévu.
C'est un moment qui vous a hanté un petit peu, vous y avez repensé pendant longtemps, ce moment où vous l'avez appris, et l'impact que ça a eu, on en parlera dans quelques instants, sur le rallye jusqu'à aujourd'hui.
Non, je peux pas dire que ça a eu un impact, c'est-à-dire malheureusement à l'époque l'accident définitif, il faisait partie du rallye, si tu veux. C'est triste à dire, mais c'était comme ça. Moi, je fréquentais le milieu auto et moto. Malheureusement, j'étais témoin de nombreux accidents. Et la vie continue, le sport continue. C'était le souhait. Et moi, j'ai beaucoup fréquenté les pilotes moto. Beaucoup sont décédés à l'époque. On avait le même âge, on était ensemble. Et j'en ai vu un qui est survivant il n'y a pas longtemps. Il me dit, on nous traitait de fous, qu'on voulait mourir. Mais il me dit, mais nous, On était passionnés, on ne voulait pas mourir. Mais bon, ça faisait partie du jeu. C'était dans le contrat. Donc, il dit, c'est regrettable, mais... Et je me souviens d'avoir parlé avec Patrick Ponce, qui était un grand pilote français. On était assez copains. Je l'avais connu quand il commençait en Coupe Kawasaki. On a parlé de la mort. Un jour, il m'a dit, mais écoute, si ça doit arriver, ça arrive. Je m'éclate tellement, je suis tellement heureux. Ça fait partie du contrat. Donc, la mort, malheureusement, était présente dans l'événement. Et tu peux pas rester sur la mort de Thierry Sabine. On est dans la course, on fait comme les autres, on continue. Puis tu es un directeur de course et puis tu reprends tes habitudes et puis ça t'empêche pas d'avoir des pensées, des regrets ou pas, etc. Mais ça continue, ça c'est la course automobile. Hein.
Il y a l'ADN de Thierry Sabine quand même qui est encore vivant aujourd'hui dans ce qu'il avait pu faire dans un Dakar qui est complètement différent. Vous l'avez dit, la technologie est différente, peut-être l'esprit même de course est différent. Les coureurs vont beaucoup plus vite, beaucoup peut-être moins un peu sur la réserve comme à l'époque. Mais on ressent quand même un peu encore une ADN quelque part de Thierry Sabine d'Australie.
Le Dakar, c'est une épreuve difficile. Quand on est sur le terrain, on sait ce que c'est. C'est des moments, et ça, la difficulté du terrain, elle ne change pas, hein, elle est toujours là. Alors, les véhicules sont de plus en plus performants, les outils de navigation. Moi-même, je partais avec un roadbook, il y avait 100 pages avec des dessins, une boussole que j'achetais au vieux campeur à 50 balles, et puis on roulait comme on pouvait. Maintenant, ils ont des outils qui facilitent, mais quand tu es dedans, faut les faire, les 500 km à se faire tabasser et à se perdre, etc. Faut les faire. Donc, tu peux pas comparer, mais pour moi, ça reste une épreuve difficile. Peut-être moins, parce que effectivement, on a des outils, mais c'est un engagement. Hein. 15 jours de course, les mecs, ils y vont. Alors, l'esprit du Dakar, la structure du Dakar, le profil du Dakar existe toujours. Bien sûr, c'est peut-être... Enfin, je ne peux pas juger sur un ordre de valeur, si tu veux.
Et juste pour conclure cet entretien, 49 pour vous, ça donne quand même vachement envie d'être là pour la 50e ou pas ?
Oui, enfin, j'ai presque fermé le dossier, si tu veux, parce que je te dis, il est bien repris, il va continuer.
Oui, mais le passionné en vous, oui.
Bah, c'est pour ça que je suis venu 3-4 jours, si tu veux, pour... ça me manque un peu, c'est vrai. Mais je vais arriver à m'en passer. Mais même, j'ai pas besoin de m'en passer. Si j'ai envie de revenir, je reviendrai. Je vais faire comme j'ai envie. J'ai eu cette liberté toute ma vie. C'est un merveille. Si je vais encore continuer.
C'est un plaisir de vous reparler encore. Merci.
Moi aussi.
Et c'était l'Aziza, un morceau de Daniel Balavoine. Daniel Balavoine, il faut le signaler, nous a quitté il y a pratiquement 40 ans. C'était le 14 janvier 1986 lors d'un accident d'hélicoptère sur le Paris-Dakar. À présent, on retrouve Jean-Noël Ducasse avec la directrice de l'Alliance française de Canberra pour nous présenter la programmation de l'Alliance de Canberra dans les prochains jours, donc suite à la rentrée 2026.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, on a le plaisir d'avoir Lou Bénard, qui est la responsable marketing à l'Alliance française de Canberra. Bonjour et bienvenue à vous, Lou, et bonne année.
Merci beaucoup de me recevoir. Et oui, effectivement, bonne année 2026 à vous également.
Et on va peut-être commencer par la rentrée culturelle chez vous à l'Alliance française de Canberra. Parlez des rendez-vous réguliers qui vont revenir en 2026 plutôt. Je pense au book club, les rendez-vous de conversation, le ciné club et tout ça.
Oui. Alors effectivement, donc on a notre book club qui revient régulièrement. Pour l'instant, il est un peu en pause puisque effectivement, là, en ce moment, à l'Alliance française, on est un peu dans un entre-deux puisque notre book club, en fait, revient toutes les semaines à partir de la reprise du terme et le terme 1, il reprend le 2 février. Donc, pour l'instant, on est un petit peu en pause, mais en ce moment, nos actualités, ça va être justement tout ce qui concerne les summer camps que ce soit pour les adultes ou les enfants, puisque justement, avant que le terme 1, reprenne le 2 février, on accueille à l'Alliance française des enfants pendant 3 semaines, ainsi que des cours intensifs pendant le matin et le soir pour les adultes. Donc ça, ce sont nos actualités du moment. Et effectivement, pour vous le disiez, le ciné classe, alors c'est un format en fait avec une de nos professeurs, Stéphanie, où on visionne un film pendant une première séance. Là, le 21 janvier prochain, on fait un hommage à la nouvelle vague avec la projection du film Jules et Jim. Donc le 21 janvier prochain, qui est un mercredi, à partir de 6h, de 6h à 20h, enfin de 18h à 20h, on visionne le film et ensuite la séance d'après, donc le 28 janvier, il y a justement une séance de discussion et d'atelier à propos du film qui a été visionné la semaine précédente avec donc notre professeur Stéphanie qui revient sur également sur la nouvelle vague, faire une présentation de ce mouvement cinématographique qui a été important pour la France. Donc voilà pour le ciné-class. Et sinon, effectivement, à l'Alliance française en ce moment, donc ça a commencé du 12 ou à partir de lundi dernier, donc le 12 janvier, mais du 12 au 30 janvier, on a donc le summer intensif pour les adultes avec des cours le matin et le soir, que ce soit pour des beginners, des intermédiaires ou des avancés. Et on a également le camp donc pour les enfants avec plein d'activités. C'est à partir de 5 ans, c'est aussi pour les adolescents, donc avec tout ce qui est casque VR, imprimante 3D, on a des excursions, une piscine aussi, donc plein de choses sympas aussi pour divertir les enfants et leur faire apprendre le français en même temps, avant donc la reprise du terme le 2 février prochain.
Et vous avez des nouveautés en ce qui concerne les cours pour 2026 ?
On n'a pas de nouveautés, non. On reprend exactement les mêmes choses, donc c'est-à-dire des cours privés, mais également des cours de groupe, que ce soit pour les enfants, pour les adultes. Ouais. Et puis, on s'adapte à tous les niveaux, que vous veniez de commencer le français, ou plus avec un niveau intermédiaire, jusque donc aux avancées, pour avec plus de la conversation. Et si jamais vous interrogez sur votre niveau de français, vous aimeriez soit apprendre le français ou reprendre le français que vous ne savez pas exactement dans quelle catégorie justement vous vous situez, vous pouvez soit venir directement à l'Alliance française ou nous appeler, comme ça on vous fera passer un petit test de français pour pouvoir du coup vous mettre dans le cours le plus approprié à vos besoins.
Donc je reviens sur les événements culturels et peut-être un petit mot sur la 37e édition de l'Alliance française French Film Festival. J'imagine que vous êtes en pleine préparation déjà.
Tout à fait, c'est vraiment un de nos événements majeurs, le French Film Festival, donc qui est effectivement à sa 37e édition déjà. C'est un événement qui se produit au niveau national dans différentes villes capitales, que ce soit à Sydney, à Melbourne et également à Canberra. Alors effectivement, on est en pleine préparation. On a déjà mis en tout cas sur notre site internet des infos, donc notre site internet qui est alliancefrançaisedecanberra.com.au, si vous voulez voir justement, être au courant de toutes nos actualités. Et on a mis justement la page dédiée pour le French Film Festival, avec les informations pour le moment sur lesquelles on peut communiquer, puisque la programmation n'a pas encore été rendue publique. Mais en tout cas, au niveau des dates, c'est donc à partir du 5 mars prochain à Canberra. Ce sera donc l'ouverture du festival et ça va durer à peu près un mois, puisque la closing, donc l'événement de clôture, sera le 8 avril, avec des séances encore, quelques séances jusqu'au 12 avril. Mais globalement, ça va être un mois vraiment de célébration du cinéma français avec une très belle programmation à venir que pour l'instant on ne peut pas dévoiler, mais en tout cas voilà, restez connectés, que ce soit sur notre site internet ou même sur le site dédié de l'Alliance française French Film Festival qui gère justement cet événement au niveau national. Vraiment, ça va être comme chaque année un événement majeur pour la culture française en Australie, puisque quand même, on le rappelle, c'est le festival de film français le plus important en dehors de la France. Donc c'est vraiment un événement à ne pas rater en Australie.
Oui, en dehors de Cannes, n'est-ce pas ?
Exactement. Ah oui, bah bien sûr, quand même. Mais oui, c'est le festival, en tout cas, de film français à l'étranger, qui est le plus important en dehors de la France. Donc c'est vrai qu'en Australie, on a vraiment de la chance pour ça.
Oui, absolument. On bat les Japonais, on bat les Chinois, on bat tout le monde.
Exactement. C'est notre petite fierté nationale. Ouais. Mais oui, et puis vraiment une super belle programmation encore une fois à venir. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas en dire plus, mais on est en plein dans les préparatifs.
Autre événement que vous aimeriez aborder, Lou, je pense peut-être à des expositions que vous organisez à l'Alliance française de Canberra de temps à autre. Vous invitez toujours des artistes à venir présenter les œuvres. Leurs œuvres.
Exactement. Alors justement, là, on est en train aussi de discuter avec certains artistes, vu qu'en plus, c'est le début de l'année,
ouais.
Pour essayer justement de continuer ces expositions qu'on organise de temps à autre à l'Alliance française. Tout à fait. L'année précédente, par exemple, on a accueilli John Firth, qui est un artiste ici local à Canberra. C'était la troisième fois qu'il exposait chez nous. Donc, c'est quelque chose qu'on continue à faire. Et en plus, on est sollicité justement de temps en temps par des artistes qui aimeraient justement profiter de nos locaux pour pouvoir promouvoir leurs œuvres. Donc, on est en discussion avec plusieurs personnes. Pour l'instant, on n'a pas de nom encore établi. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait reprendre aussi pour 2026, pour promouvoir justement différents types d'artistes, que ce soit de la peinture ou même autre,
ouais.
Pour promouvoir tout à fait leur art. Mais pas, pour l'instant, pas d'événements confirmés pour tout ce qui est exposition. Pas encore.
Et donc, toutes les informations sur la rentrée 2026, les cours, la culture, l'Alliance française French Film Festival sur le site de l'Alliance française de Canberra.
Tout à fait, c'est ça.
afcanberra.com.au, si je ne me trompe pas.
Exactement, c'est ça.
Merci à vous, Lou, et à très bientôt sur SBS en français.
Merci beaucoup à vous et bonne journée à Melbourne, c'est ça?
Ah oui, à Melbourne, merci.
Parfait.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et place à présent au rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi 15 janvier. Près d'une douzaine d'engins explosifs ont été découverts sur des trottoirs dans le territoire de la capitale australienne. En France, échec d'une motion de censure contre le gouvernement, alors que des soldats français sont en route pour un exercice militaire européen au Groenland. Et les États-Unis s'apprêtent à suspendre des demandes de visa d'immigration pour 75 pays. Voilà, notre édition de ce jeudi touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie du groupe Catastrophe avec Maintenant ou Jamais. Prochain rendez-vous avec le français ce samedi à la même heure. Bon après-midi et à très bientôt.
Comme un diamant dans le noir. Et les...
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.